carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Bienvenue à Carrefour des Arts sur Canal Académie. Nous vous proposons un cycle sur l'art nouveau. Notre précédente émission était consacrée au mouvement Arts and Crafts. Ce courant artistique fut en effet à l'origine de l'art nouveau, plus largement connu, et qui se répandit à travers toute l'Europe à la fin du XIXe siècle. Nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Brigitte Ducoussot-Mao, grande spécialiste de ce mouvement. Bonjour Brigitte Ducoussot-Mao.
Bonjour.
Je rappelle à nos auditeurs, vous êtes historienne de l'art, conférencière, professeure et aussi commissaire d'exposition. Et lors de notre première émission, vous avez évoqué les racines de ce mouvement qui prit naissance en Angleterre dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Il s'appuyait sur des théories artistiques et idéologiques développées notamment par John Ruskin et William Morris. Et dans notre deuxième volet, aujourd'hui, nous allons aborder les principes fondamentaux du mouvement Arts and Crafts, appelés à devenir la base de l'art nouveau. Peut-être pourriez-vous nous remémorer quand et comment Arts and Crafts a marqué son époque.
Le mouvement Arts and Crafts, qui apparaît entre 1850 et 1860, s'est imposé comme une philosophie autant que comme un courant stylistique. Et ce mouvement a été porté par les idées du philosophe John Ruskin et celles du poète ornemaniste William Morris. Tous les deux étaient de fervents admirateurs du Moyen-Âge dont ils avaient une vision très idéalisée. Ils pensaient que la société avait tout intérêt à retourner vers un système économique qui valorisait l'ouvrier et privilégiait le travail manuel ainsi que les matériaux naturels. Ils pensaient que l'époque médiévale donnait aux artisans une grande place et que les artisans y étaient tenus en grande estime par les guildes qui les encadraient.
Oui, alors vous pouvez nous resituer ces principes prônés par les guildes.
Alors, ces guildes avaient des règlements et un code déontologique très strict qui obligeait les différents corps de métier à progresser sans cesse. Elles poussaient les diverses corporations à concevoir et à fabriquer des objets de qualité qui valorisaient le travail effectué. Et ces guildes encourageaient principalement le goût de l'excellence et le goût de la perfection. C'est donc en s'inspirant de ce modèle historique que William Morris va créer autour de 1875 l'Art Workers Guild et l'Arts and Crafts Society, une petite entreprise plus proche de l'atelier d'artisan que de la grande usine dans laquelle il faisait revivre les techniques et les méthodes anciennes de fabrication. Il y fabriquait des objets, des textiles, des meubles et même des livres.
C'était, on pourrait croire, dans l'air du temps. Et William Morris l'avait pressenti.
Il l'avait pressenti, en effet, et il savait qu'il fallait revenir à une échelle humaine et aux méthodes artisanales pour retrouver une vigueur artistique. Et dès 1880, il devint un créateur et un fabricant reconnu. Et son entreprise devint prospère. Les méthodes qu'il employait s'opposaient radicalement aux méthodes de fabrication industrielle, tout en faisant la preuve de leur efficacité. En effet, son entreprise a été couronnée par une réussite commerciale exemplaire qui l'a poussé à créer en 1861 la société Morris Marshall Faulkner & Co. Et c'était une association de décorateurs qui entendait réformer l'ensemble du cadre de vie des Anglais en créant des papiers peints, des vitraux, des tissus, de l'orfèvrerie, des meubles, des faïences murales, des tapis, des tapisseries, en un mot, ce que l'on a appelé bien plus tard les arts appliqués.
Et finalement, à quoi peut-on attribuer cette réussite aussi bien commerciale que artistique ?
Alors on peut attribuer cette réussite au fait que dans ces ateliers, les objets industriels fabriqués par les artisans se transformaient en production luxueuse, mais accessible à la classe moyenne. Par exemple, Liberty et Hills travaillèrent avec William Morris et c'est ainsi qu'ils ont créé le plus célèbre tissu de chez Liberty, le fameux imprimé Daffodil. William Morris ne rejetait pas du tout la machine. Il estimait qu'elle pouvait supprimer les corvées de ses employés, mais il exigeait que les finitions soient confiées à des mains expertes. Alors, il fit considérablement évoluer la notion d'entreprise, essayant de rendre humain les rapports de travail entre les différents actants de l'atelier et il s'est rendu solidaire d'entreprises philanthropiques comme l'École royale des travaux à l'aiguille, cette école qui était destinée à fournir une éducation professionnelle aux pauvres et surtout aux jeunes filles pauvres.
Oui, aujourd'hui, on dirait que c'était une attitude humanitaire.
Absolument.
Et d'un point de vue stylistique ?
D'un point de vue stylistique, Maurice s'était inspiré essentiellement des lignes pures de l'époque gothique, du gothique souple anglais, que l'on appelle aussi le curvilinéaire, et que l'on peut admirer absolument dans la cathédrale de Westminster ou celle de Gloucester.
Oui, et son travail est comme imprégné de cet art de cour précieux et délicat que fut par exemple l'art de l'enluminure médiévale.
Absolument, et il était tellement admiratif de l'art médiéval et de l'art de l'enluminure médiévale qu'il a créé en 1891 la Kelmscott Press, sa propre maison d'édition, et il a transformé le livre illustré de l'époque en véritable livre d'artiste. Il y a beaucoup à dire là-dessus,
oui.
Mais nous ne pouvons pas nous étendre.
Bien sûr, mais c'était comme une œuvre d'art totale.
Absolument.
Oui. Et est-ce que vous le qualifierez d'entrepreneur mécène et d'artiste politique? Ce William Morris.
Avec William Morris naît la notion d'artiste engagé, préoccupé de politique, car il a adhéré dans les années 1880 à la Démocratique Fédération, puis en 1884 à la Ligue Socialiste, et ses idées étaient très réformatrices. Il refusait absolument la machine et ses idées firent de lui le fondateur du mouvement Arts and Crafts anglais, c'est-à-dire une entreprise à dimension humaine et non plus à dimension industrielle. Il a formulé ses opinions et c'est dans de nombreux discours, dans un livre intitulé The Decorative Art, qui paraît en 1878, et dans Collected Works, qui est publié en 1915. William Morris a influencé les théoriciens d'art moderne, comme Niklaus Pevsner, et il a fait, qui lui-même a fait des théories de William Morris, le fondement et des principes fonctionnalistes du Bauhaus.
Oui, de Bauhaus, qui est en français, pourrait traduire « maison de la construction », un mouvement qui a été fondé par Walter Gropius dans les années 20. Et William Morris crée d'autres associations d'artistes et d'artisans en Angleterre. Donc, sur le sol et dans les esprits de l'Angleterre de la fin du XIXe siècle, en pleine industrialisation, on sème comme des graines des idées réformatrices et on pourrait dire même rousseauistes d'un retour à la nature, n'est-ce pas ? Et rappelons d'ailleurs, Brigitte Ducos-Omahaut, que l'Angleterre est la terre promise de l'utopisme. Voir déjà Thomas More, l'utopie au XVIe siècle, ou encore Francis Bacon avec la nouvelle Atlantide au XVIIe siècle.
L'Angleterre est le lieu de l'utopie en cette fin du XIXe siècle et elle va être le modèle, le phare, le pôle pour tous les Européens. Au même moment, partout en Europe, se créent des colonies d'artistes dans de petits villages de campagne à proximité de la nature, tout le temps, car il faut aller peindre sur le vif ou sur le motif, comme vous voulez, où les artistes pratiquent cette peinture de plein air. Et ils refusent la lumière de l'atelier trop artificielle, l'académisme, ils renient l'enseignement des beaux-arts qui, selon eux, fige et détruit l'instinct créateur, ils s'éloignent de la société industrielle qu'ils rendent responsable de tous les maux et de la décadence de cette société de la fin du XIXe siècle.
Nous avons bien compris que le mouvement Art Nouveau était issu en grande partie de ce mouvement Arts and Crafts. Et si cet Art Nouveau est fondé sur les principes d'Arts and Crafts, vous pouvez peut-être nous indiquer quels étaient ces principes fondamentaux qui sous-tendent ce mouvement.
L'Art Nouveau est fondé sur quatre principes qui émanent des théories du mouvement Arts and Crafts et de la philosophie de John Ruskin et des réflexions de William Morris. Le premier de ces quatre principes est le refus de l'héritage esthétique. Mais il nous faut préciser que ces artistes ne refusent pas la tradition qu'ils révèrent, car elle est riche d'enseignements, mais qu'ils rejettent la répétition sans réflexion de principes, de formes ou de motifs qui perdent leur signification première dans cette répétition à l'infini. William Morris comprit très vite que la répétition affadit, épuise et abâtardit les arts qui n'exercent plus aucun impact sur la rétine ou sur les sens, ce qui est quand même un comble pour les arts visuels ou les arts appliqués. L'historicisme et la réactualisation de formes plus anciennes deviennent totalement inutiles si ils ne sont pas vivifiés par un regard critique et adaptés à la réalité sociale et urbanistique d'une époque.
Oui, donc, premier point, le refus de l'héritage esthétique. Et le deuxième principe ?
Le second principe consistait à refuser l'académisme qui paralyse toute innovation et qui ne fait que transmettre l'héritage esthétique. Donc un principe qui découle du précédent.
Et puis le troisième principe.
En troisième lieu, on trouve l'abolition de la distinction entre art mineur et art majeur, guidée par l'idée de faire un art pour tous, un art pour le peuple.
Oui, en rappelant que sous art majeur, on comprend donc essentiellement la peinture et la sculpture, alors que l'art mineur, qu'il voulait donc valoriser, c'était principalement les arts appliqués ou les arts décoratifs.
C'est tout à fait cela.
Comme nous avons vu précédemment. Et enfin, le quatrième principe.
Alors, le quatrième principe est la revendication de la référence à la nature comme seule source d'inspiration. Et cela nous permet de comprendre le militantisme de ces artistes en faveur d'un retour vers la vie à la campagne. Ils voulaient retrouver les traditions rurales et la culture vernaculaire qui s'étaient égarées dans les faubourgs de Londres ou des villes industrielles comme Birmingham. Il voulait vivre sainement et hygiéniquement, loin des miasmes de la ville enfumée et insalubre.
Ah, c'était un beau projet de société, je dois dire. Il devrait inspirer aujourd'hui nos politiques d'urbanisme. Donc, ce mouvement se développe dans sa forme jusqu'au fameux Art Nouveau.
Oui, les idéaux sociaux et politiques de ce mouvement se sont incarnés dans des formes qui étaient destinées à changer notre appréhension du monde. Ces artistes voulaient, par la forme, par les formes, changer radicalement notre œil et notre esprit par voie de conséquence. Et le style Art Nouveau est facilement reconnaissable car il ne s'inspire que de la nature, muse idéale et absolue des artistes de la seconde moitié du XIXe siècle. Le style Art Nouveau se caractérise par l'emploi répété de l'arabesque, par une organisation asymétrique de l'espace, par la présence de lignes courbes, de motifs végétaux ou floraux. Et toutes ces caractéristiques vont se retrouver dans l'architecture, le décor quotidien, les arts appliqués, les bijoux, les livres, les affiches, etc.
On entend parfois parler de sécession, de modern style ou de liberty. Comment situer ces diverses appellations ?
Il s'agit d'un seul et même art que l'on appelle l'art nouveau et qui prend simplement différents noms selon les pays. En Angleterre, on parle d'arts and crafts ou de style liberty. En France ou en Belgique, on parle de modern style. En Allemagne, de Jugendstil. En Autriche, de sécession. En Italie, d'arte floreale. Aux États-Unis, de style Tiffany. Ce ne sont que des appellations différentes. Et cependant, il s'agit d'un seul et même style qui s'est propagé d'est en ouest.
C'est tout de même très étonnant. Sur quoi repose cette expansion de l'art nouveau ? Comment a-t-il gagné un aussi large public sur le continent ?
Alors cet art nouveau a été diffusé par des périodiques d'avant-garde, comme le magazine anglais The Studio, et l'art moderne qui était édité à Bruxelles en 1880. La revue Blanche, dirigée par les frères Natanson entre 1891 et 1903, elle aussi a permis que ces idées soient propagées. Et bien que le mouvement englobe des formes très diverses, ces formes se sont imposées partout en Europe parce que cet idéal qui les sous-tendait, qui était en l'occurrence le désir d'améliorer l'art à tous les niveaux, était un idéal très fort auquel ont aspiré tous les artistes européens.
Et cet esprit est d'ailleurs sûrement à l'origine de tous ces mouvements du début du XXe siècle à venir, comme par exemple le fauvisme ou le constructivisme russe, le surréalisme et autres dada, au moins dans ce qu'ils ont de contestataire ou d'iconoclaste.
Oui, je crois que tous ces mouvements découlent de cette première impulsion anglaise, de cette impulsion d'Arts and Crafts.
Et ce mouvement de réaction donc contre l'ordre établi a vraiment radicalement bouleversé les formes esthétiques. Et par exemple, Le Corbusier aussi fut l'un des rares architectes à voir dans ce Art Nouveau les germes de ce qu'on a appelé plus tard la modernité.
Oui, et nous pouvons peut-être même conclure cette émission avec cette phrase de Le Corbusier qui résume assez bien ce que fut cet élan créateur et ce qu'il a ouvert comme perspective. Je cite, « Vers 1900, un geste magnifique, l'art nouveau, on secoue les nippes d'une vieille culture. »
Signé Le Corbusier.
Signé Le Corbusier.
Merci vraiment Brigitte Ducoussomao pour cette belle leçon d'histoire de l'art et de votre éclairage sur cette fin de siècle qui est à la source de tout l'art moderne. Je rappelle à nos auditeurs que dans cette émission Carrefour des Arts sur Canal Académie, nous vous réservons tout un cycle sur le développement de l'art nouveau en compagnie d'une spécialiste en la matière, Madame Brigitte Ducoussomao. La prochaine émission sera consacrée à Charles Ashby, le propagateur des théories de Arts and Crafts, celui qui a diffusé les idéaux de Ruskin et de William Morris par le biais de l'entreprise. À bientôt au Carrefour des Arts sur Canal Académie.